Il a fallu donner un titre à cette prédication. Alors, après réflexion et hésitation, je me suis décidé pour la douleur de la circoncision. Vous avez dit, oh là là, pasteur, vous allez nous emmener dans un sujet embarrassant aujourd'hui. C'est simplement parce que le Seigneur Jésus, Dieu lui-même, n'a pas été embarrassé d'en parler. Alors parlons-en. Il en a parlé d'ailleurs très tôt, vous vous souvenez, dans le livre de la Genèse, il en parlait à Abraham. Et je vous propose de prendre ce texte dans le livre de la Genèse au chapitre 17, où Dieu lui-même va donner à Abraham des instructions très précises en rapport avec le signe de l'alliance qu'il veut établir avec lui. Genèse chapitre 17, au verset 10, il est écrit ceci. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Dans les versets précédents, Dieu précise que cette alliance va permettre à Abraham d'avoir un nom nouveau et va permettre à Abraham aussi d'être possesseur, lui et sa descendance, du pays promis. Et comme signe de cette alliance, il lui propose la circoncision. Tout mâle sera circoncis. Et c'est une chose très solennelle, c'est une chose très importante aux yeux de Dieu. Dans les versets suivants, il va le dire au verset 13 du même chapitre. On devra circoncire celui qui est né dans la maison, celui qui est acquis à prix d'argent, et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. C'est dire à quel point Dieu regarde ceci comme étant extrêmement important. Tout mâle devra être circoncis. Vous avez remarqué, le texte dit, s'il n'est pas circoncis, il sera retranché du milieu de son peuple. Et ici, le vocabulaire est intéressant. Parce que dans l'Ancien Testament, pour dire que l'on fait une alliance avec quelqu'un, le vocabulaire qui est employé dit, on va couper une alliance. Et vous vous souvenez de l'image que Dieu avait aussi employée avec Abraham lorsqu'il coupait les animaux par le milieu. Faire une alliance dans l'Ancien Testament se dit couper une alliance. Mais c'est exactement le même mot qui est utilisé ici lorsqu'il est dit que celui qui n'aura pas été circoncis sera exterminé du milieu de son peuple. Autrement dit, celui qui n'a pas été coupé dans la circoncision sera coupé de Dieu, coupé de l'alliance, coupé de son peuple. C'est aussi simple que cela et c'est aussi solennel que cela en ce qui concerne Dieu. Mais alors, pourquoi Dieu a-t-il donc choisi un signe si intime? Et c'est précisément parce que Dieu voulait dire à quel point l'alliance qu'il fait avec son peuple est une alliance qui touche l'être humain très profondément, dans ce qu'il a de plus intime. D'ailleurs, cette alliance proposée à Abraham est une alliance qui parle très fort du plan du salut. Abraham avait reçu cette promesse de recevoir un fils alors qu'il ne pouvait pas en recevoir. Dans le début de ce chapitre 17, Dieu se présente à Abraham comme El Shaddai, le Dieu tout-puissant, à un homme qui est impuissant et qui ne peut pas avoir d'enfant. Et ce Dieu tout-puissant, c'est celui qui dit, voilà, moi je vais couper l'humanité en deux. Ceux qui auront accepté l'alliance et ceux qui auront rejeté l'alliance. Ceux qui seront perdus et ceux qui seront sauvés. Dieu dit, je vais couper, trancher par le milieu cette histoire de l'humanité et venir en Jésus pour proposer une alliance qui sauvera l'humanité pour ceux qui le veulent. Dieu avait posé ce signe sur l'organe de reproduction parce que justement, c'est par le Fils que Dieu voulait sauver l'humanité. Et il voulait faire comprendre que ce Fils ne viendrait pas par la puissance de l'homme, il viendrait par la puissance de Dieu seulement. Ce signe parle de Jésus, le Sauveur. C'est lui effectivement qui va couper l'humanité en deux. Ceux qui sous son alliance seront sauvés et ceux qui hors de son alliance, ceux qui l'auront rejeté et qui seront perdus. C'est dire à quel point ce signe riche de signification était important aux yeux de Dieu et devait être important aussi aux yeux du peuple. Dieu a présenté ce signe comme un signe perpétuel pour son peuple, mais il se trouve dans l'histoire que Dieu a un jour choisi de suspendre l'application de ce signe-là. Le peuple hébreu était sorti d'Égypte depuis environ un an et demi, lorsque le peuple s'est trouvé à un endroit appelé Kadesh Barnéa. À cet endroit-là, le peuple était prêt à rentrer dans la terre promise. Elle était juste devant lui. Mais vous vous souvenez comment Moïse et le peuple ont envoyé des espions pour voir comment ils allaient s'y prendre pour saisir ce pays promis que Dieu leur avait donné. Et vous connaissez l'histoire, elle est rapportée dans le livre des Nombres au chapitre 14, où il nous est dit que sur 12 espions, 2 seulement sont revenus avec un rapport positif. Les 10 autres sont revenus en disant que c'était merveilleux, c'était un pays extraordinaire, mais que nous ne serions jamais capables de le recevoir. Prenez avec moi dans le livre des Nombres au chapitre 14, le verset 7 et 9 où Josué va lui-même parler au peuple d'une façon bien particulière. Josué chapitre 14, au verset 7, il est dit ceci. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait, le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignons point. Ne soyez pas rebelles, allons-y, il nous est donné. Mais devant le rapport des 10 espions, le peuple se lamente, le peuple désespère, et Dieu aussi. Quelques versets plus loin, au verset 11, l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui ?» Dieu en a assez de ce peuple, envers qui il multiplie les miracles et les bénédictions, et qui agit exactement comme si Dieu n'existait pas. C'est à ce point qu'au verset 34 du même chapitre, Dieu dit, « De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. » C'est à ce moment-là que Dieu va suspendre la pratique de la circoncision. C'est un acte important, une décision importante de la part de Dieu, qui est en train de leur dire « L'alliance que nous avons faite a été affectée par votre rébellion. » Et la suspension de la pratique de la circoncision va durer pendant 40 ans. D'ailleurs, dans le livre de Josué, au chapitre 5, nous trouvons des instructions données à Josué pour que la pratique de ce signe reprenne. Dans le livre de Josué, au chapitre 5, à partir du verset 2. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis encore une fois les enfants d'Israël. » Josué fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Et un petit peu plus loin, il est dit au verset 7, « Ce sont leurs enfants que Dieu établit à leur place, et Josué les circoncit, car ils étaient incirconcis parce qu'on ne les avait point circoncis durant la route. » Et dans les versets qui précèdent, il nous est dit que pendant tout le chemin dans le désert, il n'y avait pas eu de circoncision. D'ailleurs, les versets qui suivent nous suggèrent que la Pâque également a été arrêtée. Au verset 10, par exemple, il est dit « Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans la plaine de Jéricho. » C'est à ce moment-là que la manne va s'arrêter et c'est à ce moment-là que va reprendre la pratique de la Pâque et de la circoncision. Dieu avait considéré cette rébellion du peuple d'Israël comme très grave, au point que le signe même de l'alliance que Dieu avait fait avec ce peuple en a été affecté pendant les 40 années qui ont suivi. Dieu a été très clair sur le sens de la circoncision. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 9, Dieu parle par Moïse et explique. Deutéronome chapitre 9, verset 23. Et lorsque l'Éternel vous envoya à Kadesh Barnéa en disant « Montez, prenez possession du pays que je vous donne », vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel, votre Dieu, vous n'eûtes point foi en lui et vous n'obéîtes point à sa voix. Dieu avait dit « Allez-y, c'est un pays que je vous donne » et vous avez dit non. Vous avez été rebelles parce que vous n'avez pas eu de foi suffisante pour obéir. Ainsi, dans le désert, pas de circoncision, pas de Pâques. Mais Dieu va établir là son tabernacle pour apprendre au peuple à reconstruire avec lui une relation significative. Le temple dans le désert sera le moyen par lequel Dieu veut reconstruire avec son peuple une relation dans une alliance profonde. Dieu avait été très clair sur le sens de la circoncision. Et il ne faut pas attendre le Nouveau Testament pour en avoir une signification profonde et spirituelle. Dans le chapitre suivant, dans Deutéronome, au chapitre 10 et au verset 16, il est dit ceci. « Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne raidirez point votre cou. » Dieu avait bien fait comprendre que le signe de la circoncision n'était pas simplement un signe dans la chair. Ce que Dieu voulait, c'était la circoncision du cœur. Et la circoncision du cœur, c'est le contraire de la rébellion. Ce signe, autrement dit, n'avait de sens que dans la mesure où il était le reflet de quelque chose d'intérieur, comme le baptême aujourd'hui. Un baptême n'a de valeur que s'il est l'expression d'une conversion, d'un repentir, d'un changement de vie. Sinon, c'est simplement se mouiller pour rien. De la même manière, ce que Dieu voulait, c'était un cœur duquel la rébellion avait été coupée, évacuée. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 9, se trouve un texte intéressant qui nous montre que d'autres peuples pratiquaient la circoncision, mais pas dans le sens où Dieu l'avait prescrit. Regardez dans le livre de Jérémie, au chapitre 9, verset 25. Il est écrit ceci. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas dans leur cœur. L'Égypte, Juda, Édom, les enfants d'Aon, Moab, etc. » Il y avait donc à ce temps-là des gens qui pratiquaient plus ou moins la circoncision, mais pas du tout dans le sens où Dieu l'avait donné. Pas dans le sens où cet acte-là devait être le reflet de quelque chose qui est dans le cœur. Parce que tous ces peuples-là, Juda y compris, étaient rebelles contre Dieu. Ainsi, comment Dieu entend-il la rébellion? Qu'est-ce que la rébellion, selon Dieu? Eh bien, la rébellion, selon Dieu, c'est ne pas avoir assez de confiance en lui pour obéir. Et j'aimerais prendre quelques passages des Écritures qui associent la circoncision avec la foi et l'obéissance. Prenez un premier exemple dans le livre des psaumes, le psaume 78. Il est dit au début de ce psaume, « Je publie la sagesse des temps anciens », plus loin au verset 7, « afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu, qu'ils observent ses commandements, afin qu'ils ne soient pas comme leur père, une race indocile et rebelle. » Une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Vous remarquez dans ce passage, afin qu'ils mettent leur confiance en Dieu, qu'ils n'oublient pas ce que Dieu a fait et qu'en conséquence, ils observent ses commandements. Par opposition à leurs pères qui ont été indociles et rebelles. Le rebelle, c'est celui qui n'a pas assez confiance en Dieu pour lui obéir. Prenons un autre exemple dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 3. Dans ce chapitre se trouve un appel que Dieu adresse au peuple à revenir, un appel à la repentance. Lisons le verset 22. Il est écrit ceci. « Revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Nous voici, nous allons à toi, car tu es l'Éternel, notre Dieu. » Et un peu plus loin, quelques versets seulement, au début du chapitre 4, il est dit au verset 3, « Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. » défrichez-vous un champ nouveau, ne semez pas parmi les épines. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs. Quand Dieu appelle à revenir à lui, il illustre cela par cette image, circoncisez vos cœurs. C'est dire à quel point, déjà dans l'Ancien Testament, Dieu avait été clair, ce n'est pas le signe physique qui était le plus important, c'est ce que ce signe signifiait pour le cœur de l'être humain. Un dernier exemple dans la première épître aux Corinthiens et au chapitre 7. Il est dit au verset 19. La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Par ce moyen-là, Dieu essaye de faire comprendre que la circoncision qui est importante aux yeux de Dieu, c'est celle du cœur. Et cela depuis le début, dans l'alliance traitée avec Abraham. Cette rébellion du peuple d'Israël est devenu dans l'Ancien Testament la rébellion par excellence. Lorsque l'on va parler de la rébellion, c'est de celle-là que l'on parlera. Les conséquences de cette rébellion ont été graves. Ellen White écrit ceci. Durant 40 ans, l'incrédulité, les murmures et la rébellion ont interdit à l'ancien Israël l'entrée dans le pays de Canaan. Les mêmes péchés ont retardé l'entrée d'Israël moderne dans la Canaan céleste. C'est l'incrédulité, l'amour du monde, le manque de consécration et les différends de ceux qui prétendent appartenir au peuple de Dieu qui nous ont retenus pendant si longtemps dans ce monde de péché et de tristesse. Elle continue en disant « Il se peut que nous passions encore bien des années dans ce monde à cause de notre insoumission comme ce fut le cas pour les enfants d'Israël. Mes amis, se pourrait-il que ceux qui prient ardemment pour que le Seigneur revienne bientôt soient justement ceux-là qui, par leur attitude et leur rébellion, empêchent le Christ de revenir dans ce monde ? Et qui sont ceux aujourd'hui qui prient plus que tout autre pour que Jésus revienne ? C'est dire que la rébellion aux yeux de Dieu, la rébellion qui est la plus révoltante à ses yeux, n'est pas celle qui conduit un homme à lever le poing contre Dieu. C'est celle qui conduit un homme, une femme, un jeune à ne pas avoir assez de confiance en lui pour obéir. La rébellion de celui qui lève le poing contre Dieu parce qu'il ne le connaît pas, ce n'est pas la rébellion qui gêne Dieu. La rébellion qui gêne Dieu et qui le révolte, c'est lorsque un de ses enfants sait ce qu'il a à faire, mais n'a pas assez de courage et de foi pour l'accomplir parce qu'il n'a pas assez confiance en Dieu. Voilà la rébellion qui révolte Dieu. Dans ce sens, et en y réfléchissant à deux fois, on se rend compte qu'il y a par conséquent dans l'Église beaucoup plus de révoltés qu'il ne paraît à prime abord. Et en effet, tous ces passages des Écritures dans lesquels Dieu s'adresse au peuple pour la rébellion, il ne parle pas d'abord de ces inconvertis, de ces païens, de ces gens là-dehors qui n'y connaissent rien et qui ont rejeté Dieu de toute façon. Il parle d'abord à son peuple. Et c'est à son peuple qu'il adresse cet appel. Circoncisez vos cœurs, c'est-à-dire abandonnez une fois pour toutes votre rébellion. Mais nous apprenons que le peuple de Dieu d'aujourd'hui retarde son entrée dans la Canaan céleste pour les mêmes raisons. Et ces raisons sont vastes finalement. Parce que combien d'entre nous ont entendu la vérité sur le sabbat depuis longtemps, mais ont toujours du mal à le pratiquer comme Dieu le demande. Combien d'études bibliques faudra-t-il pour enfin en être convaincu? Beaucoup d'entre nous ont entendu ce que Dieu demande sur la dîme, par exemple. Mais combien d'études bibliques faudra-t-il pour être convaincu au point de la pratiquer telle que Dieu le demande? Nous avons découvert dans les Écritures que Dieu nous demande de ne pas ressembler au monde. Mais est-ce que nous avons assez de foi et de confiance en lui pour abandonner ce qu'il y a chez nous du monde et que nous gardons juste assez pour que le monde ne se moque pas de nous? Combien d'études bibliques faudra-t-il? Combien d'années de réflexion faudra-t-il à ceux qui attendent encore pour laisser de côté la rébellion et s'abandonner entre les mains du Christ? Mais c'était aussi le problème du jeune homme riche. Car il est venu à Jésus en disant « Je ne suis pas un rebelle, j'ai observé tous les commandements de A à Z et de plus depuis mon enfance. » Et Jésus va toucher un point important en disant « Oui, c'est bien, mais l'obéissance aux commandements passe par le cœur. » Et Jésus va enseigner au jeune homme riche que l'observation des commandements passe par le cœur. Parce que nous pourrions dire aussi, nous, aujourd'hui, mais les commandements, je les observe, je les ai appris, et je suis parfait dans cette observation des commandements. Et comme pour le jeune homme riche, Jésus vient et nous dit, oui, mais attends, l'orgueil qui te fait croire que tu es meilleur que les autres, ça, c'est la rébellion. C'est la rébellion contre un Dieu que tu ne reconnais pas comme étant capable de conduire ta vie mieux que toi-même. La circoncision, c'est une affaire de cœur. Permettez-moi cette expression. C'est une affaire de cœur. Mais la bonne nouvelle est déjà dans l'Ancien Testament. Dans le livre du Deutéronome, je vous propose de regarder avec moi ce passage qui est chapitre 30. Il contient là la bonne nouvelle. Pour ceux qui semblent ne pas avoir encore eu la douleur de la circoncision du cœur, il est dit dans Deutéronome au chapitre 30 et au verset 6, « L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur. » C'est une œuvre que Dieu veut faire. Et c'est une œuvre douloureuse, parce que lorsque Dieu coupe ce à quoi nous tenons, nous en souffrons. Dieu veut couper dans notre cœur tout ce qui nous empêche de lui appartenir entièrement, depuis nos désobéissances jusqu'à notre orgueil. Dieu veut couper dans notre cœur tout ce qui nous rattache encore au monde et qui nous empêche d'être attachés à lui. C'est la raison pour laquelle, dans le livre des Proverbes au chapitre 23, Dieu adresse cet appel à son peuple, comme il l'adresse encore aujourd'hui, où il dit « Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. » Amen.